Exode chapitre 17, les versets 3 à 7. Le livre d'Exode chapitre 17, versets 3 à 7 pour la prédication de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le peuple, de plus en plus assoiffé, continua de critiquer Moïse en disant : Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, avec nos enfants et nos troupeaux ? Moïse implora le secours du Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple ? » demanda-t-il. « Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. »« Passe devant le peuple, » répondit le Seigneur, « et choisis quelques-uns des anciens d'Israël pour t'accompagner. Tu t'avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. » « Moi, je me tiendrai là devant toi, sur un rocher du mont Horeb, et tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple pourra boire. » Moïse obéit à cet ordre sous le regard des anciens. On a appelé cet endroit Massa et Meriba, ce qui signifie épreuve et querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve, en demandant le Seigneur, est-il parmi nous, oui ou non ? Amen. Un des pasteurs du Louvre, l'Église protestante unie de France du Louvre à Paris, avait prêché sur ce texte et il avait choisi comme thème, en prêchant sur ce texte, l'Éternel face à la crise d'adolescence du peuple d'Israël. Eh oui ! Je reprends, l'Éternel face à la crise d'adolescence du peuple d'Israël. Voilà comment il aborde ce texte. Et même si la thématique qu'il a choisie a un ton assez ironique, il n'a pas tort en disant cela parce que, avant cette histoire, rappelez-vous, il y a eu toute une série de récits qui relatent le comportement qu'on peut qualifier d'enfantin de la part de ces enfants d'Israël. Au chapitre 14, le passage à travers la mer, par exemple, Moïse a commencé à recevoir des reproches avec virulence. « Il n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert ? Pourtant, ils viennent de sortir d'Égypte, voyant la main puissante de Dieu qui les a fait sortir de la servitude qui avait duré 4 siècles. » Oui, l'homme oublie vite. Ensuite, au chapitre 15, une fois arrivé à Mara, il ne pouvait pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, l'eau de Mara. Et il est dit que le peuple maugrait contre Moïse. Et ce n'est pas fini, au chapitre 16, il maugrait à nouveau contre Moïse et l'Éternel parce qu'ils avaient faim, en criant « Ah !» Si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Alors, par la suite, l'Éternel a donné la manne, qui, signalons-le, est bien défini un pain qui vient du ciel. Et cette expression est très importante dans la vie chrétienne, le pain qui vient du ciel. Et par la suite, l'Éternel a donné la manne aussi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'ils sont tellement habitués à manger de la manne, ils ne voyaient pas que c'était un miracle. Ils étaient tellement habitués à en manger, alors ils recommençaient à nouveau à maugrer, à maugrer. Alors cette fois-ci, ils disent « On veut de la viande !» D'où l'écaille à une grosse quantité qu'on peut qualifier d'exagérée dans les livres d'Exode. Mais il y en avait tellement tout autour du camp sur une distance d'une journée de marche et sur une épaisseur d'un mètre. Vous imaginez la quantité de viande. Après avoir vécu toutes ces choses-là, ils ont encore eu le culot, je dis bien le culot, d'attenter même à la vie de Moïse. Il ne se sentait plus en sécurité, le pauvre Moïse. Il a eu peur. Et à son tour, il s'est plaint devant l'Éternel. « Ces gens-là vont me lapider » et cela continue. D'où les deux noms de l'endroit, Massa, provocation, Meriba, querelle. Alors là, je me suis dit, je peux comprendre le pasteur du Louvre disant que ce peuple traversait une crise d'adolescence. Et pour ma part, moi, je vais même rajouter encore une couche. C'est un peuple gâté, pourri de la grâce. Un peuple gâté, pourri de la grâce. Cette expression ne m'appartient pas, je l'ai empruntée même d'un pasteur qui avait écrit un livre sur la liturgie, le pasteur André Louis. Il ne parlait pas des enfants d'Israël en parlant de cela, mais j'aime bien l'expression parce qu'elle me semble bien adéquate dans le contexte de notre péricope. Oui, ce peuple avait oublié qu'ils étaient esclaves pendant 430 années. Et si Dieu est venu à leur secours, c'est parce qu'ils avaient crié vers l'Éternel. « Libère-nous de la maison d'esclavage !» Et maintenant, après avoir tout reçu, ils osent remettre en question la remise en liberté. Quelle ingratitude de leur part! Comme s'ils disaient « Mais pourquoi tu nous as libérés? Vaut mieux revenir en Égypte tout en étant toujours esclaves. » Cette histoire, chers amis, me fait rappeler le récit de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, ici à Namur, nous sommes en pleine étude biblique sur le livre de la Genèse. L'homme se fait convaincre par le serpent que finalement Dieu ne les aime pas vraiment, sinon il aurait pu donner accès à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Oublions que Dieu leur a donné l'arbre de la vie. En plus de tous les arbres du jardin, regardez bien ce texte. Dieu a donné tous les arbres fruitiers, plus l'arbre de la vie. Et là, le diable arrive à convaincre l'homme que Dieu ne les aime pas, puisqu'il n'a pas donné cet arbre de la connaissance. Je trouve que c'est vraiment l'image de la non-considération de l'abondance de la grâce de Dieu. Et en parlant de grâce, chers amis, je parle à la fois les deux notions de grâce. D'abord, la gratia, la grâce seule, le tota gratia, toutes les grâces. Le sola gratia, nous la connaissons bien, tout ce qui est en Dieu. Mais nous oublions le tota gratia, tous les bienfaits que nous recevons journalièrement. Mais nous ne le voyons plus comme étant une grâce. Et là, je trouve qu'avec cette maladie, le coronavirus ou autre chose, nous sommes conscients que même notre liberté de sortir de la maison est une grâce. Donc pour moi, cette maladie est un rappel à l'ordre pour dire « Vous avez oublié que vous étiez gâtés par la grâce, mais vous ne le voyez pas. » Et quand on touche à une partie de cette grâce, c'est là que nous sommes conscients que nous étions dans l'abondance. Et là est notre problème principal, parce que nous sommes enfants de Dieu, oui. Et donc, nous nous permettons parfois de réclamer des choses comme un dû. Nous ne voyons plus la santé que Dieu nous donne. Là, on sait vraiment la richesse de cette santé que nous avons. Nous ne voyons plus le travail. Beaucoup de gens vont perdre leur travail. Les gens ne savaient pas que les nourritures qu'ils prenaient tous les jours étaient une grâce. Regardez, ils sont devenus comme des animaux et des bêtes sauvages en luttant pour avoir quelques pâtes et quelques riz au supermarché. Nous ne voyons plus la richesse que nous avons des enfants. Beaucoup pleurent de la mort de leurs enfants aujourd'hui. Ainsi de suite, etc. Voilà les grâces de Dieu que nous avons oubliées. Et n'oublions pas que tout est pure grâce. Rappelons-nous toujours de cela. Ce n'est pas parce que nous vivons sous la grâce de Dieu que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et tout ce que nous désirons. Dans le mot « grâce », la notion de « don » est capitale, est importante, parce que tout don dépend uniquement du donateur. Et à travers cette histoire que nous pourrions comprendre la place de la prière dans la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question suivante. Pourquoi Jésus nous incite à demander au Père ce dont nous aurions besoin dans nos vies? Pourtant, ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, il semble qu'il, Dieu même, se contredit. Jésus l'a dit, en priant, ne multipliez pas vos paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Le Père nous a tout donné en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus avait dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Et là, on voit le principe du déjà et du pas encore qui conditionne notre relation avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a pas mal de références bibliques qui montrent cet aspect-là. Par exemple, dans 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, maintenant nous sommes des enfants de Dieu, et ce que nous serons ne serait pas encore manifesté. Mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu, certes, mais la manifestation de notre statut d'enfant de Dieu n'est pas encore manifestée ou révélée dans sa totalité. Et donc, c'est dans la prière quotidienne que nous allons découvrir ce que nous avons déjà. Je dis bien, c'est dans la prière que nous allons découvrir ce que nous avons déjà en lui. Nous n'allons pas demander quelque chose que nous n'avons pas. Tout est déjà prêt là, en Jésus-Christ. Pour mieux vous faire comprendre là où je veux en venir, pourquoi Jésus, c'est un exemple concret, pourquoi Jésus avait-il besoin de prier à son Père ? Pourtant, il est le Fils de Dieu. Il a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Et Jésus, quand il priait, il ne demandait pas la faveur de son Père, ni comme quelqu'un qui est dans le besoin, non. Donnons un exemple. Lorsqu'il a fait revenir à la vie Lazare, le frère de Marthe et de Marie, il avait fait une prière, et dans cette prière, il s'adressait au public qui le regardait en montrant la proximité qu'il avait avec le Père. Il ne se positionne pas comme un simple mortel qui demande la faveur de Dieu. Il montrait à la foule qu'il avait accès direct au Père. Il le côtoie parce qu'il a la même gloire que le Père. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès direct à cette richesse de Dieu. La seule différence que nous avons avec Jésus, c'est que lui, il est le Fils engendré. Et donc, il peut à tout moment avoir accès à la richesse du royaume du Père. Tandis que nous, en tant qu'enfants adoptés via le baptême, nous pouvons venir aussi nous approcher avec cette assurance devant le trône de grâce, mais par la prière pour obtenir compassion. Donc, il nous faut approcher. Donc, cette démarche d'approcher le trône de la grâce, c'est ça la prière. Je vous pose alors la question, pourquoi sommes-nous avares en matière de prière ? Pourquoi il faut exhorter les chrétiens à prier ? Or, c'est une richesse de venir dans la cour céleste. Il y a tellement de choses à découvrir. J'ai en tête la parabole de Jésus sur le festin, rappelez-vous le festin du roi, où il avait invité ses amis, mais personne n'est venu parce qu'ils avaient tout leur occupation. C'est un peu ça, l'image. Or, le repas était déjà prêt. Mais il ne manquait que les convives. Alors, le roi a donné l'ordre à ses serviteurs d'aller dans les petites rues pour faire entrer les gens dans la salle de fête. Il n'y avait plus rien à faire. Tout est déjà là. Il suffisait d'en profiter de ce festin. C'est cette image-là que je retiens quand je pense aux invitations que nous lançons aux gens pour profiter de la grâce de Dieu dans la prière. À partir d'aujourd'hui, à partir de demain, précipite-toi d'entrer dans la prière, parce que tu entres dans la cour céleste, tu entres dans la grande salle où il y a les richesses de Dieu, tu peux en profiter pleinement. Pourquoi hésites-tu de cette richesse qui est déjà entre tes mains ? Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen.